Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Si vous nous rejoignez à l'instant, ici vous le savez, on aime regarder de près comment notre société est en train de changer. Et c'est vrai que le mouvement s'est accéléré avec la pandémie de coronavirus. Mais dans cette crise, vous faites preuve aussi d'une grande agilité, d'une grande inventivité, une capacité d'adaptation qui est assez bluffante et qui nous permet d'entrevoir aussi le monde de demain avec peut-être une nouvelle utilisation de nos réseaux sociaux. Car la manière de s'en servir a aussi changé pendant ces 50 et quelques jours de confinement. Pour en parler et voir comment, Elisabeth Assayag, bien sûr, est à mes côtés, comme chaque jour. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
Et nos invités vont nous rejoindre tout au long de cette émission pour parler justement de l'utilisation de ces réseaux sociaux. C'est vrai que nous avons tous, ou presque aujourd'hui, un compte Twitter, un compte Facebook, un compte Insta et j'en passe. Mais ce qui est frappant, c'est que ces outils déjà très présents dans nos vies sont encore plus mis en avant aujourd'hui. Ils se sont encore plus imposés avec le confinement. Bonjour Michel Gilbert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de la communication du groupe Facebook. Vous avez dans votre giron Messenger, Instagram, WhatsApp, des applis qui, finalement, avec la distanciation sociale qui nous a été imposée depuis 55 jours maintenant, se sont un peu plus invités dans notre quotidien. D'ailleurs, vous avez vu doubler le nombre de vos utilisateurs sur Messenger et sur WhatsApp.
En fait, on a vu doubler le nombre d'appels de vidéos, en fait, parce que grâce à ces messageries, on peut appeler les gens qui comptent pour nous via vidéo, et on a vu un doublement de ces appels vidéo, en effet.
On a vu de plus en plus de gens se connecter pour finalement se voir en vrai, ce qui n'était plus réellement possible dans la rue ou en allant taper chez le voisin. On avait envie, non pas seulement de se parler, mais de voir un visage.
Tout à fait. En fait, on a tous besoin d'être avec les autres. Et en fait, les réseaux sociaux et Facebook, Instagram sont des tremplins, en fait, de rencontres et d'entraide et de liens. Donc, on a vu vraiment ces élans de solidarité et ces connexions se font pendant tout ce confinement. Et en fait, je peux constater que pendant ce confinement, les Français ont bougé. On a vu parce que ils ont lancé tellement des initiatives solidaires. Ils ont répondu présent à l'appel de chacun pour aider les uns les autres.
Oui, c'est vrai, Elisabeth. On s'est rendu compte que les réseaux sociaux ont pris une grande place finalement pendant cette période de confinement.
C'était prévisible, ça a été prouvé, on l'a vu, plus de la moitié des Français, 55% des Français l'ont dit dans un sondage l'Institut CSA pour LinkedIn France. Ils ont admis qu'ils auraient du mal à vivre le confinement sans pouvoir consulter les réseaux sociaux. Pour 22% des sondés, c'était impensable d'envisager de se confiner sans Facebook, sans Instagram, WhatsApp, TikTok pour les plus jeunes. Et c'est vrai que tous ces réseaux nous ont aidés à tenir pendant le confinement. Toutes les activités, tout notre quotidien s'est déplacé sur ces plateformes parce qu'au-delà de maintenir le lien avec sa famille, avec ses amis, notamment avec WhatsApp, Facebook a permis l'entraide, a permis la solidarité. Dès le début du mois d'avril, plus de 500 000 Français avaient déjà rejoint des groupes solidaires pour se rendre des services entre voisins, pour aider le personnel soignant à se loger ou encore pour soutenir les commerçants. Ça, c'était début avril. D'ailleurs, je suis sûre que notre invité pourra nous préciser les chiffres sur l'ensemble de la durée du confinement, sur tous ces groupes d'entraide.
Oui, alors est-ce que vous avez effectivement des données, Michel Gilbert?
Oui, en effet. En fait, nous avons lancé deux initiatives phares, Ensemble à la maison et Ensemble solidaire. Et nous avons vu plus de 13 millions d'interactions, c'est-à-dire des partages, de likes, de shares, des interventions. 13 millions de personnes ont partagé soit les lives, soit les posts de solidarité pendant cette période. Et on a également vu, comme vous avez dit, 500 000 Français ont rejoint des groupes de solidarité. C'est quand même incroyable. On a vu vraiment ce mouvement se confirmer. Mais ce n'est juste un reflet de ce qui va continuer même après le confinement.
Oui, et puis il y a des gens emblématiques qui se sont mis au service de cet élan de générosité. Je pense par exemple, pour ne citer que lui, David Guetta, qui en 2 heures de live a collecté 600 000 euros pour les hôpitaux de Paris. Finalement, ça donne une autre image aussi des réseaux sociaux.
En fait, c'est l'image que nous avons, nous, depuis toujours, parce qu'on voit ce qui se passe sur les réseaux. Et la lumière n'est pas souvent mise sur tout ce fonctionnement, mais ça fait ressortir, en fait, ce qu'on voit tous les jours. On voit l'entraide, on voit également des institutions culturelles qui viennent pour vraiment faire des liens culturels. On voit la solidarité, on voit cette communication, ce lien qui se met en place tous les jours. Mais je pense que cette crise et ce confinement a juste mis la lumière sur les bonnes initiatives de chacun, et c'est une bonne chose, parce qu'avec ce déconfinement, nous devons continuer dans cette action et dans cette solidarité et continuer à bouger.
Vous qui connaissez bien justement les rouages de Facebook et de ces applications qu'on utilise finalement aujourd'hui quasi au quotidien, vous vous dites que on avait un peu délaissé Facebook, du coup ça reprend du sens, le sens que vous vouliez donner dès le départ justement à ces outils dans le quotidien des gens?
Je ne pense pas que les gens ont délaissé. Je pense que l'ADN de Facebook et même la mission de Facebook a toujours été pour servir comme lien et donner les personnes les moyens pour se connecter. Et on a tous besoin de ces connexions. Et donc là, on a juste vu que ça se confirme, ce besoin et aussi cette utilité. Parce que non seulement les gens sont venus pour s'entraider, mais aussi pour s'informer, pour se divertir, juste pour être ensemble. Et donc c'est ça vraiment l'ADN des réseaux.
Et oui, on en est revenu effectivement à ce qui a fait l'arrivée des réseaux dans nos vies. Vous restez avec nous, Michel Gilbert. On communique, c'est vrai, autrement depuis le début du confinement. Et ce qui est vrai pour nous l'est aussi pour ceux qui se servent au quotidien des réseaux comme les influenceurs. Bonjour, Quentin Bordage.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez Call Square, qui est une plateforme digitale d'influenceurs. Et alors, vous, pour le coup, dès le 30 mars, vous avez lancé un mouvement qui s'appelle hashtag offrons notre influence. C'est-à-dire, l'idée, c'était quoi avec ce mouvement?
Alors, effectivement, on a lancé cette initiative à partir du 15 mars, pas le 30 mars, un peu plus tôt, juste avant le début du confinement. Parce que, alors, nous, notre métier, c'est d'accompagner les influenceurs d'un côté et les annonceurs et les agences de communication pour mettre en place des campagnes de communication sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Et on a une communauté de plus d'1 500 000 influenceurs dans le monde entier sur ces réseaux sociaux. Et en fait, à partir du 15 mars, on a compris que la crise, elle serait violente et durable. Et on s'est dit que chez Call Square, on avait le pouvoir de changer les choses en mobilisant notre écosystème. Et en fait, on a décidé de lancer ce mouvement Offrons notre influence, avec le hashtag Offrons notre influence, en travaillant des deux côtés, en se disant d'un côté on va donner un accès gratuit à la technologie Call Square pour tous les gouvernements français et étrangers, les institutions, les secteurs publics, toutes les associations, les fondations, toutes les entreprises d'utilité publique et aussi la MedTech pour pouvoir identifier les influenceurs et pouvoir relayer leurs messages, soit pour faire passer des messages
pour que les influenceurs se mettent véritablement au service aussi de la lutte contre le coronavirus.
Exactement. Donc ça, c'était d'un côté, des utilisateurs. Et puis, on a aussi cherché à mobiliser les influenceurs volontaires pour porter gratuitement ce message de bonne pratique, d'appel au soutien d'initiative, d'appel aux dons, etc. Et voilà. Et donc, en fait, il y a aujourd'hui une centaine d'utilisateurs des gouvernements, des entités gouvernementales un peu partout en Europe. On a des fondations comme la Fondation pour la Recherche de France. On a le Solidarité Sida, par exemple, la Fondation Abbé Pierre et les principales sociétés de la MedTech en France qui utilisent cette plateforme. Et de l'autre côté, il y a un peu plus de 1000 influenceurs qui se sont mobilisés jusqu'à présent, qui sont très facilement identifiables sur notre plateforme avec un filtre et qui sont engagés quotidiennement sur ce type de campagne.
Vous dites que l'influence n'a jamais été aussi utile, c'est-à-dire qu'on la pensait peut-être un peu plus futile. Là, on s'aperçoit qu'elle peut avoir du sens et des valeurs.
Effectivement, il y a... Alors, l'influence, les réseaux sociaux sont assez récents, une petite dizaine d'années, et les influenceurs sont encore plus récents, et on a vu très rapidement des clichés qui sont sortis sur ces influenceurs, comme il y a eu beaucoup de détracteurs ces dernières années, et on se rend compte finalement que l'influence marketing, c'est une puissance médiatique, et ça peut être très bénéfique, et tout ça c'est porté par des influenceurs, et ces influenceurs aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle, on se rend compte effectivement que leur métier, parce que c'est un métier, n'a jamais eu autant de sens, autant d'importance, et on le voit dans des actions concrètes telles qu'elles sont portées aujourd'hui.
Elisabeth, justement, comment est-ce que les influenceurs ont réussi à garder ce lien pendant la crise ?
C'était pas évident au début, hein, parce que pour certains, ils ont des communautés immenses. Donc l'enjeu était de taille, parce qu'il fallait divertir quotidiennement ces communautés avec des contrats qui étaient beaucoup plus faibles, hein, parce qu'ils avaient, enfin, ils avaient pas grand-chose à vendre pendant cette période. Et là, on a vu des influenceurs qui ont montré leur capacité à divertir et à engager leur communauté. On les a vus plus altruistes, beaucoup plus authentiques. Parfois avec des marques moins présentes, mais même quand il y avait des marques présentes, c'était fait avec beaucoup de tact. Et d'ailleurs, certains influenceurs ont refusé de placer des produits ou de refuser certains contrats parce que la situation ne le permettait pas. Et on était donc loin des images paradisiaques ou des photos dans les cocktails mondains, hein. L'objectif, c'était d'évoluer avec la crise, à la fois pour ne pas perdre les abonnés, pour en fidéliser de nouveau. Donc beaucoup se sont mis à la cuisine ou se sont orientés vers de la détente, vers de la relaxation, vers des choses qui concernaient toute leur communauté, hein. Ils vivaient le quotidien ensemble.
Je voudrais qu'on redonne la parole à Michel Gilbert qui est toujours avec nous pour le groupe Facebook. C'est vrai qu'on a découvert finalement les gens aussi sous un autre jour avec ces réseaux sociaux parce qu'ils nous font entrer dans leur intimité et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément imaginé.
Oui, et tout ça s'est fait très spontanément. Parce que là, vous parlez des influenceurs, mais beaucoup de célébrités, beaucoup de personnalités publiques, spontanément, comme Jean-Louis Aubert, ont pris leur guitare et ont voulu partager quelque chose avec les autres. Et donc là, c'est vraiment la force des réseaux, c'est la force de Facebook, d'Instagram, c'est spontané, c'est authentique, et on donne quelque chose instantanément à quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est vraiment là où la force a joué, de pouvoir être ensemble sans vraiment être ensemble.
Merci à tous les deux d'avoir été en tout cas avec nous à distance mais connectés. 13h17, la France bouge, continue sur Europe 1.
Europe 1.
Et on vient d'en parler, les influenceurs, c'est vrai qu'ils sont importants dans nos vies aujourd'hui. Eh bien, vous allez voir qu'eux aussi ont revu finalement leur manière de communiquer.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
13h19 sur Europe 1 et vous le savez, hein, les influenceurs ont compris qu'ils avaient dans cette crise une carte à jouer. Eux aussi, ils utilisent désormais leur communauté au service de la lutte contre le coronavirus. Et c'est peut-être d'ailleurs l'émergence d'une nouvelle tendance. Bonjour Marie-Laure Norine.
Oui, bonjour.
Ou peut-être que je dois dire Kayane, hein, pour les initiés, parce que vous êtes une star du gaming, joueuse professionnelle spécialisée dans les jeux de combat. Je crois que vous jouez d'ailleurs d'ici quelques minutes, donc on va pas prendre beaucoup de votre temps, mais j'avais quand même envie de vous entendre, parce que pendant cette épidémie de Covid-19, vous avez sur votre chaîne Kayane TV, sur Twitch, décidé d'aider des associations. Racontez-moi, comment elle est née cette idée ?
Alors, elle est née d'un gros streamer français qui s'appelle MV Caster, ou Mr. MV. Et en fait, il a eu l'idée de regrouper une quarantaine de streamers francophones pour aider les associations qui luttent contre le coronavirus. Donc, parmi ces associations, il y a la Croix-Rouge, 101, Abbé Pierre et APHP. Et du coup, l'idée, c'est de faire comme d'habitude, tout simplement sur Twitch, c'est-à-dire de jouer en direct avec nos communautés. Donc, on est quarantaine de joueurs et on joue tous à des jeux différents. Moi, c'est des jeux de combat, mais il y a aussi d'autres joueurs qui jouent à d'autres types de jeux. Et l'idée, c'est de sensibiliser nos communautés pendant qu'on est en live à jouer avec eux ou interagir avec eux. Et leur dire que leur soutien, n'importe quel montant de leur don peut soutenir ces associations dans ces temps difficiles. Et
du coup, parce qu'en temps normal, vous voyagez beaucoup pour aller jouer, pour faire des meetings. Là, finalement, vous êtes chez vous, hein, comme nous tous, confinés.
Oui. Bah oui, habituellement, je suis normalement en voyage aux États-Unis et au Japon pour participer à un tournoi de jeux de combat. Donc là, forcément, tous mes tournois, toutes les conventions sont annulées et je souffre comme tous ceux qui vivent de l'événementiel ou des joueurs professionnels de jeux vidéo ou des sportifs qui n'ont pas de tournois à faire en ce moment. Mais ça n'empêche que grâce aux jeux en direct, en fait, je peux tout de même travailler de chez moi, c'est-à-dire jouer en direct. Et même s'il n'y a pas d'enjeu compétitif, je continue de jouer, de m'entraîner, de rester en forme. Et si en plus, ça peut permettre d'aider, de soutenir des associations pendant cette période, franchement, c'est d'une pierre deux coups.
Oui, vous avez demandé du coup à votre communauté de lancer une cagnotte. Je crois que vous avez réussi à récolter 102 000 euros sur 3 jours pour confiner-solidaire.org, c'est ça?
C'est ça, tout à fait. En l'espace de 3 jours, le week-end dernier, on a réuni 102 000 euros, donc avec la quarantaine de streamers qui ont collaboré pour cette initiative.
Oui, vous en avez fait plusieurs, hein, d'ailleurs, des opérations Cœur de Gamers, Confinés Solidaires. Oui. C'était important de montrer que voilà, le gaming aussi se mettait au service de la lutte.
Oui, en fait, il y a beaucoup d'événements caritatifs dans le gaming. Donc, c'est pas la première fois. C'est vraiment quelque chose dont les streamers poussent. Là, en ce moment, c'est pour la SPA. Donc c'est vraiment aussi pour soutenir les animaux, ça peut être n'importe quelle cause, mais dans tous les cas, durant cette période de coronavirus, on a eu beaucoup de streams caritatifs. Et pour moi qui souffre aussi, mais beaucoup moins que d'autres, je peux rester à la maison, je peux quand même travailler, donc j'ai quand même un emploi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont perdu, mais grâce à mon emploi, je peux quand même sensibiliser les autres et récolter des fonds pour soutenir.
Et on va justement vous libérer, vous laisser aller jouer parce que vous êtes attendu justement sur un live. Merci d'avoir été avec nous. Elisabeth, pendant le confinement, c'est vrai qu'on a vu justement des joueurs professionnels, des gamers, des sportifs, des personnalités finalement qui se sont mobilisés. Et ça aussi, ça a fait du bien au moral.
Mais ça nous a fait tous du bien. Beaucoup d'entre eux se sont dit je vais partager des créations inédites ou juste partager des moments privilégiés avec mes fans. On a vu des stars comme M, Patrick Bruel, Jean-Louis Aubert, elle en parlait tout à l'heure, Michel Gilbert, la directrice de la communication de Facebook, proposer des concerts live depuis leur domicile sur Facebook. Fabrice Lucchini qui a créé un compte Instagram spécialement pour le confinement et énorme succès parce que on voit Fabrice Lucchini qu'on ne connaissait pas sous cet angle. Il est installé sur son fauteuil, lunettes sur le nez, et il nous lit des fables de La Fontaine sur une musique de Chopin. C'est tout simplement délicieux. Tous les soirs à 17h30, Josiane Balasco qui lit des histoires aussi sur Instagram. Et même au niveau des sportifs, avec les championnats annulés, avec les compétitions reportées, il y en a qui se sont dit on va aussi tenter d'animer notre communauté, tenter de faire quelque chose. Et vous avez Florian Gauthier qui a inventé le grand quiz du confinement, histoire de tester la culture générale des athlètes.
Ouais, c'est vrai que c'est aussi ça, la solidarité finalement, et elle s'est vraiment exprimée chez les personnalités, chez les influenceurs aussi, on vient de le voir. Bonjour Magali Berda.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Shona Evans, qui est d'influenceurs de la télé-réalité. Dès le début, vous avez décidé d'utiliser justement leur notoriété, leur communauté pour faire des lives, récolter de l'argent au profit des hôpitaux de Paris.
Exactement, on a commencé à faire des lives. Alors, on a commencé en fait à utiliser les réseaux sociaux de nos influenceurs en premier temps pour diffuser les gestes barrières, etc. Et ensuite, on va dire que c'était avant le confinement. Ensuite, on a été donc placé en confinement et on va dire qu'il nous a fallu 1 semaine, 10 jours pour commencer pour organiser les lives et choisir la Fondation des Hôpitaux de France et des Hôpitaux de Paris pour récolter des dons pour eux.
Oui, alors. Un par jour la première semaine, 4 puis 3 par semaine ensuite. L'idée, c'était effectivement de montrer ce qu'on était en train d'expliquer, que les réseaux étaient aussi un véritable outil de lien social.
Complètement. Alors, c'est vraiment ça. Et surtout, on a voulu montrer que tout le monde, tous les influenceurs, quel que soit leur milieu, puisque certains sont connus par la chanson, d'autres par le cinéma, d'autres par la télé-réalité. Vous savez, en temps normal, c'est très sectaire, on va dire, le milieu du show business et des influenceurs. C'est chacun, voilà, il y a les Instagrammeurs, il y a les télé-réalités, il y a les chanteurs, personne de trop se mélanger, etc.
Là, non, tout le monde était ensemble.
Voilà. Exactement. Là, on a voulu montrer vraiment que tout le monde jouait le jeu. On a eu Kev Adams, on a eu énormément de personnalités, notamment Michel Polnareff aussi, le jury de Danse avec les Stars, Chris Marquez. On a eu des candidats télé-réalité. On a vraiment mélangé tout le monde pour montrer qu'il y avait une unité en fait.
C'est intéressant ce que vous dites parce que ça signifie que la télé-réalité a beau être un secteur à part, il est aussi un pan de l'économie et il montre qu'il est solidaire. Et puis ça permet aussi d'aller toucher finalement des publics différents, peut-être des publics plus jeunes qui s'intéressent justement aux stars de la télé-réalité.
Tout à fait. D'ailleurs, le fait de recevoir Michel Polnareff, c'était marrant parce qu'il y a eu une anecdote là-dessus avec Jul, un chanteur, un rappeur aussi. Ça a mélangé les deux univers, qui sont des univers totalement différents. Et aujourd'hui, Jul a refait sa photo Instagram avec, on va dire, un montage avec les cheveux de Michel Polnareff. Il y a plein de choses qui se sont passées où tout le monde s'est mélangé, tous les milieux, tous les univers différents sont mélangés. Et on a réussi à montrer que la télé-réalité était effectivement, malgré les préjugés, malgré tout ce que les gens peuvent penser, eh bien, une puissance énorme des réseaux sociaux et tout le monde s'en est servi quelque part, même la fondation, même l'État, on a été sollicité pour faire diffuser les gestes barrières. On m'a pas demandé de sélectionner un tel ou un tel, on nous a demandé
le gouvernement vous a demandé, vous a dit allez-y, faites-le s'il vous plaît.
Alors oui, voilà, c'est ça, diffuser, c'était avant le confinement, diffuser les gestes barrières s'il vous plaît, utilisez la puissance des réseaux sociaux pour diffuser ça, c'est le meilleur moyen de communication aujourd'hui, c'est le plus grand, qui s'adresse à tout le monde et qui touche tout le monde. La télé, vous savez, les chaînes, vous le savez, vous avez les audiences, c'est ciblé sur les ménagères, c'est ciblé sur les influenceurs, ciblent tout le monde, parce que tant un ado qu'une ménagère, qu'une personne plus âgée, tous les niveaux sociaux vont regarder les réseaux sociaux. Donc effectivement, pour moi, c'était... Et d'ailleurs, ça a été prouvé là, avec ce qui s'est passé.
Et je précise aussi, parce que vous n'en avez pas parlé, mais c'est important, Nabila, que tout le monde connaît, a fait un don, je crois, de 10 000 euros à la Fondation des Hôpitaux de Paris.
Elle a fait un don, et dans les lives, j'ai des influenceurs aussi qui ont fait des dons, d'autres candidats de télé-réalité qui ont fait des dons aussi. Nabila a donné 10 000 euros sur TPMP, d'autres ont donné. Ils ont montré aussi comment donner, c'est-à-dire qu'ils se sont servis de leur réseau pour faire des dons en direct et pour montrer aux gens comment on se servait du site internet, enfin comment on donnait en fait, où est-ce qu'il fallait rentrer les sommes, où est-ce qu'il fallait cliquer, et ils donnaient en direct.
Et c'est important parce qu'ils montrent l'exemple. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La France Bouge continue, 13h29 sur Europe 1.
Europe 1.
Les réseaux et les influenceurs ont aussi été, c'est vrai, un moyen de nous aider à découvrir des tutos pour bah, finalement notre système D du confinement. C'est ce qu'on va vous montrer.
Europe 1. La France Bouge. Raphaël Duchemin.
13h31 sur Europe 1, on a tous, hein, pendant ces 50 et quelques jours de confinement, utilisé les réseaux, soit pour parler à nos amis, on l'a vu, à nos proches aussi, soit pour chercher des astuces ou des tutos. Bonjour Nelly Chataignon.
Bonjour Raphaël, comment allez-vous?
Très bien, merci, et vous-même?
Bon, moi je suis super, merci.
Bon, confinée mais active, vous êtes la fondatrice de Make My Beauty. Au départ, si je remonte à l'origine, vous aviez créé un blog il y a 10 ans pour partager votre savoir-faire. Mais depuis janvier, vous aviez déjà envie de mettre en ligne vos conseils. Du coup, le confinement, si je résume, a un peu accéléré les choses.
Exactement. Alors en fait, je suis la cofondatrice de Make My Beauty. J'ai une associée qui s'appelle Alexandra. Et on est toutes les deux maquilleuses. Et effectivement, on avait en tête c'était en gestation depuis 2011, de mettre nos services, parce qu'on a un atelier dans le Marais où on accueille des clientes en particulier, de mettre ces services online pour justement celles qui ne pouvaient pas se déplacer ou qui n'habitaient pas à Paris. Et le confinement a accéléré les choses parce qu'on a mis nos services en ligne beaucoup plus rapidement que prévu. Et l'idée, c'est d'accueillir via des réunions Zoom des clientes pour des sessions de beauté en particulier, donc autour du maquillage ou autour de la peau ou des make-up parties.
Alors comment ça se passe? C'est payant, je crois, mais vous avez un petit peu revu vos tarifs. Évidemment, c'est pas la même chose que quand on vient vous voir.
Ah bah oui, parce qu'effectivement, ça a ses limites quand même. Hein. Donc on a revu nos tarifs, donc c'est un peu plus attractif. C'est un peu moins long, parce que quand on vient à l'atelier, c'est 2 heures ou 3 heures. Quand on est online, c'est 1 heure pour le Skin Academy et 1 heure et demie pour le Make-up Thérapie. Et après, on avait appelé ça la make-up party déconfinée, donc elle venait à 4-5 personnes et on faisait une make-up party autour d'un thème donné. Donc ça, on va le continuer en lançant des thèmes via Insta, en lançant des sondages pour qu'elles nous disent ce dont elles ont les sujets qu'elles ont envie qu'on aborde, et on fera des make-up parties dans ce sens. Et du coup, c'est beaucoup plus abordable mais c'est aussi un peu moins long et ça a ses limites forcément. Qu'un tête-à-tête avec nous à l'atelier.
Alors, vous avez, et vous êtes en train d'en parler d'Instagram, vous avez organisé des lives et vous avez vu arriver, moi ça m'a frappé, des infirmières qui vous demandaient justement comment entretenir leur peau parce qu'elles étaient obligées de porter le masque pendant toute la journée. Elles vous ont demandé des conseils.
Oui. Alors, en fait, on a été sollicitées par des infirmières, notamment une qui nous suit depuis longtemps et qui nous a dit, les filles, faites-nous un tuto. On a besoin d'un tuto make-up parce qu'on voit que nos yeux et c'est quand même notre moyen de communication avec les malades. Et aussi, on a la peau qui est dans un état désastreux. Expliquez-nous ce qu'on fait. Donc, avec Alex, on a réfléchi parce que jamais on n'aurait pensé à faire quoi que ce soit pour le corps médical dans cette période. On les imaginait bientôt affairer à autre chose. Et il se dit, on va faire un live. Donc, on a organisé un live sur notre compte Instagram, spécial soignante, où Alex faisait un tuto make-up. Et là, on avait imaginé tous les produits nomades, les produits 3 en 1, tout ce qui était un peu rapide, qui tenait bien pour se maquiller juste les yeux. Et moi, je répondais à toutes les questions. Skin, comment, pourquoi vous avez la peau dans cet état? Qu'est-ce qu'on fait pour l'améliorer? Quels produits on utilise? Et ensuite, on a tout en Insta Story. On avait mis tous les produits dont on avait parlé. On les a remis en lien pour qu'elles puissent aller les acheter et réparer leur peau. Donc, on a eu plein de retours hyper positifs à ce sujet parce qu'effectivement, les conseils qu'on avait donnés, elles avaient réussi à soulager leur épiderme. Et puis aussi... ces petits instants de bien-être et de considération qu'on avait pu avoir pour elles leur avaient fait plaisir et qu'on ait pu y penser, ça les avait beaucoup touchées.
Oui, parce que pour prendre soin des autres, il faut aussi savoir prendre soin de soi. Hein. Ça commence par là et c'est important. Et puis vous avez justement, pour ce personnel soignant, mis les choses de manière gratuite, ce qui est important aussi de signaler. Vous restez avec nous ? Elisabeth, il y a quelque chose qui finalement rejoint ce bien-être dont on est en train de parler, c'est la méditation qui a fait partie des vrais succès de ce confinement.
C'est sorti du lot aussi, hein. Donc Make My Beauty, je suis allée faire un tour et effectivement c'est vous donner de très très précieux conseils. Mais oui, évidemment. Et alors la méditation, oui, pour vous donner une idée, une influenceuse, Lily Barbery Coulon, elle est professeure de yoga à Paris, elle est très présente sur les réseaux, elle avait 48 000 abonnés sur Instagram. Et à partir du moment où elle a proposé chaque soir un cours en direct sur son live Instagram de méditation, elle est passée de 48 000 à 100 000 abonnés en quelques semaines. On voit bien donc que pendant ce confinement, il y a eu une espèce d'urgence émotionnelle de beaucoup de Français, de beaucoup de personnes qui souffrent de la solitude ou de l'enfermement, de pouvoir entrer en contact avec des personnes qui prennent soin d'elles, exactement comme pour Make My Beauty, vous prenez soin de la peau des personnes qui vous suivent, et bien voilà, là avec la méditation, avec la relaxation, c'est exactement le même principe.
Oui, c'est aussi finalement de la solidarité, hein, et vous allez voir que ces actions, elles ont été relayées vraiment partout dans le monde, notamment le monde de l'influence, et je suis sûre que les jeunes qui nous écoutent connaissent tous Léna Situation. Bonjour Léna. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi youtubeuse et en principe, c'est votre quotidien de jeune femme de 22 ans que vous donnez à voir. Du coup, vous avez fait comme nous, finalement, comme tout le monde. Vous avez montré votre confinement.
J'ai complètement montré mon confinement, mais en réalité, moi, mon travail de base, enfin, ce que je fais au quotidien, c'est très lifestyle. Donc, je montre ma vie et toutes les péripéties qui arrivent. Et là, c'était évident de ne pas transformer mon contenu pour... l'édulcorer et faire semblant d'un faux confinement. Donc j'ai montré le confinement sous toutes ses coutures.
C'est-à-dire, racontez-moi, qu'est-ce que vous avez fait pour que finalement votre communauté reste à l'écoute et puis pour aussi participer à cet élan de solidarité?
Bah alors du côté de... J'ai essayé d'être un peu... Comment dire, très sincère, parce que moi je voyais sur les réseaux sociaux beaucoup de confinements qui étaient... incroyable, parfait, organisé, de la cuisine, du ménage, du tri et tout. Et moi, j'étais dans mon lit les premiers jours et j'étais complètement déprimée. Et je me disais, mais attendez, est-ce que je suis la seule ou pas? Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui me suivaient, qui étaient un peu dans ce complexe du confinement parfait. Les réseaux sociaux peuvent apporter parfois.
Je vous rassure, hein, je suis au micro et puis derrière moi, il y a du linge qui est en train de sécher. Hein, donc
Et c'était vraiment essayer de venir décomplexer et et montrer un peu la vraie vie aussi, parce qu'on est quand même dans une période qui est assez particulière émotionnellement et qu'on n'est pas obligé de tous vivre la chose extrêmement rapidement, extrêmement organisée. On peut aussi être chacun à son rythme. Donc j'essaie un peu de montrer cette partie-là de mon confinement.
Ça a aidé des gens qui étaient des jeunes, par exemple, qui étaient seuls, qui avaient besoin de se retrouver et de voir qu'eux aussi étaient dans la même situation que vous.
Bah, c'est difficile de parler à leur place, mais c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient c'est agréable d'avoir un message plus décomplexant et qui nous aide un peu à comprendre qu'on est tous dans une situation qui est complexe et qu'on peut aussi ne pas être en train de faire du yoga ou du pilates parce qu'on n'arrive pas à le faire, parce qu'on n'a pas envie, et peut-être aussi on a envie de rester devant Netflix et de chiller toute la journée. Donc je pense que j'ai juste rapporté un côté qui était très naturel. Enfin, c'était un peu moi mon ressenti, et c'était très agréable de voir que j'étais pas la seule dans cette situation, et je pense que c'était inversement, ça faisait le même effet.
Je peux vous dire que mes collaboratrices, parce qu'en même temps on se parle sur les réseaux, elles me disent je l'adore, et vous avez des fans, hein, vous avez Cyrielle, vous avez Laetitia, vous avez Angèle et Charlotte qui vous adorent et qui sont dans mon équipe et qui sont totalement fans. Elisabeth, c'est vrai que
finalement, je l'adore, hein.
Oui, bah oui, voilà, et on est tous en train de découvrir finalement un peu du quotidien des autres à travers ces réseaux sociaux, et ça c'était pas vraiment prévu.
Non, c'était pas prévu.
Moi, je suis un peu voyeuriste, on voit un peu les maisons des gens et comment ils vivent au quotidien, c'est drôle.
Oui, c'est vrai qu'on a quelques commentaires assez amusants, moi, sur la pile de livres qui est derrière moi aussi. On m'a demandé pourquoi j'avais pas mis d'étagère. Enfin, c'est vrai que ça suscite autre chose finalement chez les gens.
D'autres interrogations.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Autre question, Léna, vous avez je crois, vous aviez prévu de déménager, vous, pendant cette période.
Oui, j'ai eu les clés le jour où Macron a annoncé le confinement. Et donc, j'ai tout mis sur pause, puisque j'avais ni eau, ni électricité, même pas de parquet, rien. Du coup, au début, c'était 15 jours. Hein. Je ne sais pas si on se rappelle cette époque où, au début, c'était annoncé 15 jours, puis 15, puis 40, puis un mois. Et du coup, j'ai essayé de suivre un peu avec le truc et j'ai vraiment respecté le confinement. Je voulais pas prendre de risques et de faire venir les gens chez moi et de faire des allers-retours dans Paris, quoi. Donc,
ce qui est chic avec vous, c'est que vous avez un nouvel appartement, mais vous mettez une sublime robe pour pouvoir nous le présenter. C'est ça, en fait, qui fait la différence. C'est-à-dire, nous, on aurait mis même photo, on aurait mis un jogging. Non, vous avez mis la très belle robe blanche, décolletée, en satin. Enfin, vous êtes superbe.
Ah, j'ai mis la robe, j'ai fait un petit montage, une voix off et tout. Ça m'amuse, et c'est comme ça que je passe aussi le temps avec le confinement, parce que je pense que je serais devenue folle si j'avais pas continué de faire des petites créations sur Insta et tout. Parce que c'est vraiment mon kiff, et c'est vrai que je prends pas toujours le temps de le faire, puisque en réalité, on est toujours en train de travailler à droite à gauche dans le speed et tout. Et j'ai une éducation qui est très parisienne, quoi. C'est la grande ville, il faut bouger, il faut faire ci, il faut faire ça. Et passer une journée à la maison, c'était au début très challengeant, et au final, commence à y prendre un peu de plaisir en réalité. Hein.
Eh ben oui, ça a aussi des bons côtés, ce confinement. Ça nous a mis un petit peu sur pause et ça nous fait du bien. Merci Léna Situation d'avoir été avec nous. Merci évidemment pour tous les conseils que vous nous avez donnés. Voilà, on vous adore, on vous l'a dit. Donc maintenant, vous êtes fixés. 13h42, la France bouge, continue sur Europe 1.
Europe 1.
Cette période de confinement a aussi été l'occasion de voir de nouveaux utilisateurs s'imposer sur les réseaux sociaux pour faire passer, vous allez le voir, de nouveaux messages.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
13h44 sur Europe 1, on a tous vécu des moments de stress. C'est vrai, avouons-le, en étant 24 heures sur 24 presque enfermés chez nous. Mais vous allez voir que les réseaux peuvent nous aider à nous détendre. Bonjour Marion Creusot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes comédienne et cofondatrice du compte Crustel, un compte que vous avez mis en place pendant le confinement avec Julien Pestel, votre compagnon, votre mari d'ailleurs, je crois. D'où le creux de Creusot et le Stel de Pestel.
Voilà, nos deux noms se sont fusionnés.
Exactement. Alors l'idée, c'est de faire des parodies pour passer le temps au départ. Et en un mois, ben, ça a fait des petits. Vous avez vu le compte atteindre 350 000 abonnés. C'est un truc de malade.
Oui, c'est vrai que c'est assez fou. Ouais. On ne s'y attendait pas. À la base, c'était ça. C'était pour passer le temps, pour nous occuper et amuser les copains. Et très vite, il y a eu un bouche à oreille, un buzz, comme on dit. Donc voilà, c'était une agréable surprise. Mais du coup, il fallait tenir le rythme.
Et oui, alors on va comprendre pourquoi vous avez suscité autant d'intérêt avec des publications, dont une très très remarquée du professeur Raoult, très apprécié sur les réseaux. Je crois que c'est la voix de Julien qu'on entend.
Monsieur le Président, nous voici dans la première unité de recherche sur le Covid-19, dirigée par le professeur Raoult.
Ils sont rigolos tout en blanc, on se croirait chez Eddie Barclay.
Vous le reconnaîtrez facilement, c'est celui qui ressemble à Patrick Sébastien.
Alors, vous avez écrit des sketchs, des courts-métrages. Comment est-ce que vous vous êtes inspiré pendant ce confinement ?
Ah bah pendant le confinement, on s'est inspiré de l'actualité, hein, parce que c'est pas rien ce qui nous arrive à tous. Donc c'est sûr qu'avec l'actualité, il y avait beaucoup d'inspiration sur ce que vivent les gens qui sont même dans le sujet du virus, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur le front, le personnel soignant, comme les éboueurs, où il y a beaucoup de gens dont on peut parler. Et puis il y a les gens qui sont confinés comme nous et qui tournent en rond et qui ont des problèmes plus ou moins importants, comme ça peut être le manque de papier toilette, mais ça peut être utile.
Donc vous avez oui, c'est vrai que ça, c'est très utile même. Ça a été un espace de libre expression finalement aussi ce confinement, si je vous entends.
Oui, c'est vrai. C'était le petit échappatoire, une minute par jour. On pouvait faire passer des petits messages. C'était pas désagréable.
Alors, vous êtes aussi auteur pour la télé. Évidemment, ça aide hein, de savoir écrire. Ça vous a offert une notoriété que vous n'attendiez pas. Je crois que Krustel a tellement plu que vous avez aujourd'hui des propositions, non, pour passer à la télévision.
Oui, absolument. C'est vrai qu'on était contacté par différentes chaînes, donc. Notre pastille humoristique va pouvoir continuer un petit peu après le confinement. Après, on sera content de pouvoir continuer à travailler, mais avec des caméras ou des scènes, ne plus être confiné, ça va nous faire du bien aussi.
Alors, vous restez avec nous, on va rester dans l'humour et on va rejoindre, si vous le voulez bien, Michael Augusto qui nous attend. Bonjour Michael.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes comédien, vous aussi. Et au début du confinement, vous avez voulu vous intéresser à ce qui se passait sur les réseaux, notamment du côté de TikTok. Et oui. Ben, comme beaucoup de gens, vous n'avez pas vraiment compris comment ça marchait. Du coup, vous vous êtes dit, tiens, si j'en faisais quelque chose.
Oui, absolument. En fait, TikTok, je m'étais inscrit 2 mois avant le confinement. Et je ne comprenais pas très bien comment s'en servir. Mais en même temps... j'ai vu que tout le monde...
Ça me rassure beaucoup, hein, je dois le dire.
Vous aussi, voilà. Et en fait, par la force des choses, je me suis mis quand même à faire des vidéos et la première a très très bien fonctionné. Et voilà, c'était le début d'une suite de vidéos.
Alors, justement, comment est-ce que vous avez trouvé l'inspiration pendant ce confinement, vous aussi? C'est le confinement qui vous a alimenté, si j'ose dire?
En quelque sorte, en fait, au tout début du confinement, je pense qu'on avait tous envie de se rapprocher, notamment avec ses amis et sa famille. Et moi, j'ai toujours aimé faire rire mon entourage. Et en fait, j'ai commencé à faire des vidéos principalement pour eux. Enfin, en tout cas, j'ai commencé avec une première vidéo où je me suis inspiré de réponses, cette princesse qui est enfermée dans sa tour. Et du coup, c'était très parlant pour nous tous. Et voilà, du coup, j'ai fait une sorte de parodie. Et en la postant en fait sur les réseaux sociaux, je visais principalement déjà mes amis présents sur les réseaux, ma famille, et je me suis très vite aperçu que ça allait bien au-delà. Et j'ai eu beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, beaucoup de partages de ma vidéo, et c'était assez impressionnant.
Oui, et puis cette vidéo, elle a percé, et je crois que 2-3 jours plus tard, vous en avez fait une autre où vous parodiez la publicité Dior dans le hall de votre immeuble, c'est ça?
Oui, absolument. En fait,
avec quand même un message derrière, parce qu'il y avait les gestes barrières.
Tout à fait. Au moins, je me suis dit, quitte à générer autant de vues, visiblement, autant que j'en profite pour véhiculer toutes ces notions de gestes barrières et consignes de distanciation sociale. Et en fait, voilà, j'ai voulu parodier cette pub Dior où Charlize Theron défile et se débarrasse de tous ses attributs Et là, en l'occurrence, je me débarrasse de mes gants, de mon masque.
Attention, hein, voilà. Attention à ne pas prendre 135 euros d'amende. Hein. Dites-moi,
non,
vous avez.
Une fois rentré chez toi.
Bon, ça va. Vous avez été contacté justement par Sobank pour produire du contenu pour des marques qui vous ont vu justement sur les réseaux et qui se sont dit on aime bien, on a envie de travailler avec lui.
Oui, absolument. En fait, juste après avoir publié ces deux premières vidéos, ils m'ont contacté sur Instagram pour me dire qu'ils avaient beaucoup aimé mes vidéos et qu'ils voudraient produire du contenu pour un de leurs clients qui sont les cuisiniers Xina. Et en fait, ils m'ont demandé de faire 4 vidéos en me laissant quasiment carte blanche sur les vidéos. Et donc, j'ai dû imaginer en fait des scénarios dans ma cuisine. Voilà. Et du coup, c'est ce que j'ai fait.
Justement, Sobank, Elisabeth, oui. C'est une agence de communication qui a vraiment trouvé des idées pour finalement nous embellir la vie, embellir aussi celle des influenceurs.
Oui, et eux sont partis du principe qu'il fallait agir sur l'humour pendant cette période du confinement. Et donc, ils ont lancé le hashtag Confunment. Fun qui veut dire amusement, s'amuser en anglais. Ils ont observé les thématiques qui ressortaient sur les réseaux sociaux et donc ils se sont dit on va jouer sur la carte de l'humour aussi pour sensibiliser les personnes à rester chez elles, pour passer du temps et pour pouvoir un petit peu rire et se détendre. Donc ça c'est l'agence a mis ça au point. Il me disait, j'ai eu l'un des fondateurs de l'agence tout à l'heure qui me disait que une des vidéos qui avait le plus cartonné justement pour sensibiliser les personnes à rester chez eux et à adopter les gestes barrières, c'est la vidéo, vous l'avez sûrement vu Raphaël ou nos auditeurs, c'est celle de Arnold Schwarzenegger, 4,5 millions d'abonnés, qui lui a sensibilisé ses fans sur le coronavirus avec l'aide de ses animaux. Parce qu'il est toujours sur ses vidéos en compagnie de sa petite chienne ou deux de ses ânes. Et par exemple, on voit expliquer comment bien se laver les mains avec son Yorkshire. Et ça a vraiment extrêmement bien marché. Ça, c'est ce qui ressort du confinement concernant les humoristes. Et on voit qu'il y a des humoristes connus, mais des humoristes moins connus qui sont sortis du lot comme ça, qui nous ont fait beaucoup rire. Je pense, il y a un couple de Toulouse qui a raconté leur quotidien de famille confinée, Mélissa et Fred. Et ça marche beaucoup, beaucoup également.
Et oui, on découvre aussi des talents et c'est aussi ça finalement qui nous fait du bien pendant ce confinement et avec l'avènement finalement de ces réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir participé à cette émission et de nous avoir ouvert les yeux sur finalement les bienfaits aussi parce qu'il y en a de nos réseaux sociaux. Elisabeth, nous on se retrouve
lundi, évidemment.
Évidemment, pour une nouvelle semaine d'émission de La France Bouge. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.
Europe 1.
13h53, Roland Pérez va nous rejoindre d'ici quelques instants pour répondre à toutes vos questions.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
13h55 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver comme chaque jour notre avocat, l'avocat d'Europe 1, Roland Pérez est avec nous. Bonjour Roland.
Hello Raphaël, bonjour à tous confinés sous le soleil, exactement.
Et profitez-en, ça ne va pas durer, nous a dit Anissa Dadi. Roland, comme chaque jour, vous répondez aux questions posées au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. Celle de Sylvie, par exemple, aujourd'hui. J'aimerais savoir, dit-elle, si les auto-écoles vont rouvrir et les dispositions prévues, si la durée du contrat a été dépassée.
Alors, il n'y a pas de difficulté pour la durée du contrat. Elle va pouvoir être reconduite. La crise sanitaire a bloqué, j'ai envie de dire, a gelé tous les délais et donc les reconduites vont être de fait. Alors oui, elles vont réouvrir, mais elles ne vont pas réouvrir tout de suite avec l'organisation des examens pour ceux qui s'apprêtaient à passer immédiatement le permis de conduire. Elles ne vont pas réouvrir non plus, probablement, avec les examens pratiques et les leçons de conduite, parce qu'il va falloir mettre à l'épreuve toutes les mesures qui sont aujourd'hui proposées et dans le protocole de déconfinement pour toutes les entreprises ouvertes notamment au public. On parle d'équipement de masques, de gants, de visières pour les moniteurs. On parle même de séparation en plexi très facile entre le moniteur et l'élève. Donc ça va être très très compliqué à mettre en place. Donc je pense qu'ils vont utiliser les premières semaines pour mettre en place toutes les mesures de sécurité et puis gérer tous les rendez-vous, les dossiers en cours. Il y a y a plus de 200 000 Français qui attendent, figurez-vous Raphaël, de passer le permis de conduire. Donc ça va être compliqué, je pense qu'il va y avoir un retard à minima de 2 mois. Ensuite les examens, ça va être, il va falloir procéder à une désinfection des véhicules entre chaque élève, installation, je vous ai dit, de parois souples entre le candidat et l'examinateur ou le moniteur, des protections sur le volant, les sièges, le levier, le bois de vitesse, enfin c'est un casse-tête sans nom, mais qui est nécessaire pour protéger tout le monde, parce qu'évidemment les auto-écoles ont peur aussi de voir leurs responsabilités engagées si l'un de leurs clients attrapait, ou en tout cas indiquerait avoir attrapé le Covid en venant chez eux. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps, il faut qu'elle soit très patiente, Sylvie.
Oui, il faut qu'elle soit patiente, mais en tout cas, on l'a rassurée, hein, le contrat peut être repoussé, évidemment, puisque les conditions sanitaires en ce moment ne sont pas réunies pour qu'on puisse prendre les cours. Gérard a aussi une question pour vous, Roland. Mon employeur, dit-il, refuse que j'adapte mes heures de travail pour éviter les heures de pointe dans les transports en commun. Que puis-je faire ?
Alors, c'est vrai que cette question se pose avec plus d'acuité pour la région d'Île-de-France. Je ne sais pas si Gérard est en Île-de-France, mais je pense que ça doit être le cas, puisque c'est encore une zone rouge. On le sait aujourd'hui, le secrétaire d'État chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari, a confirmé que les utilisateurs des transports en commun en Île-de-France, et grand l'Île-de-France, devront disposer encore, figurez-vous Raphaël, dès le 11 mai, donc lundi, d'une autorisation de leur employeur indiquant une plage horaire de déplacement pour éviter l'afflux de voyageurs en heure de pointe. La région d'Île-de-France a mis au point une charte pour tenter justement de juguler ce flux de voyageurs. Il y a à peu près en temps normal 5 millions de personnes. Là, il voudrait arriver quasiment à 1 500 000 personnes. Donc ça va être très compliqué. Ce texte a été signé par le préfet de la région d'Île-de-France, mais aussi des organisations patronales. Donc tout a été fait pour inciter les entreprises à gérer le flux de salariés et à prévoir en fait que les salariés puissent arriver, on va dire, entre 6h30 à 10h30 le matin et de repartir entre 15h30 et 19h30 avec cette fameuse attestation. Il va y avoir des brigades d'ailleurs de contrôle de ces attestations. Si le salarié n'a pas cette attestation en Île-de-France, il devra rentrer chez lui, il ne pourra pas prendre le métro ou le train ou d'autres transports publics en Île-de-France. Donc c'est important, il n'y aura pas de sanctions, mais c'est en tout cas la seule sanction, c'est qu'il repartira. Et donc il faut que l'entreprise ait les salariés et qu'il y ait un véritable dialogue, qu'il y ait cette répartition des horaires. Il faut qu'un véritable accord intervient, mais évidemment, c'est l'employeur qui va avoir le dernier mot.
Merci Roland pour toutes ces précisions. On peut continuer à vous poser des questions au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. On va vous retrouver d'ailleurs dans la matinale de Mathieu Béliard lundi à 6h40 et puis juste avant 14h bien sûr, comme chaque jour sur Europe 1. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.
Merci,
vous restez
vous
bien
aussi.
Sûr à l'écoute d'Europe 1.